SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Europa Voice, épisode 82. Comme d'habitude, on retrouve avec nous Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Et alors Nathanaël, on commence aujourd'hui avec un sujet sur l'Union européenne, plus précisément sur celui qui est un peu devenu le vilain petit canard de l'Union européenne, le président ultranationaliste hongrois Viktor Orban. La Hongrie et son gouvernement ont fait voter il y a quelques semaines une loi qui assimile l'homosexualité à la pédophilie et qui la rend quasiment illégale. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Bruxelles, en particulier à Ursula von der Leyen, qui a même renoncé hier à se rendre à Budapest comme c'était prévu.
On va effectivement, Grégory, commencer ce nouvel épisode d'Europa Voice par un rendez-vous manqué. C'est celui d'Ursula von der Leyen qui, effectivement, a décalé son étape hongroise de sa tournée européenne, hein, puisque dans le cadre en fait de ses fonctions, la présidente de la Commission se rend dans chaque État, hein, à la rencontre de chaque dirigeant européen pour discuter, pour voir en fait dans quelle manière le plan de relance européen va être appliqué, hein, vraiment pour étudier cette feuille de route avec chaque acteur. Et puis, comme vous l'avez dit, hein, il y a eu le gouvernement hongrois qui avait fait voter une loi assimilant l'homosexualité et la pédophilie, et la Commission a voulu taper fort, pas que symboliquement, mais Ursula von der Leyen a décidé de ne pas se rendre à la rencontre qu'elle avait prévue avec Viktor Orban, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, jeudi 8 juillet. Et alors pourquoi c'est important? C'est pas simplement un rendez-vous manqué par rapport à cette loi, pour protester contre cette loi, mais encore une fois, c'est parce que à l'issue de chacune de ces rencontres, on a des avancées par rapport à ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros et la manière dont l'Europe va octroyer des aides qui sont différentes pour chaque pays et comment elle va mettre en œuvre finalement ce plan de relance. Donc véritablement, on passe du statut du refus d'une rencontre à celui d'une conséquence très concrète pour le gouvernement hongrois en termes financiers pour les mois et les années à venir.
Alors justement sur cette question, je vais me faire un petit peu l'avocat du gouvernement hongrois, mais la Commission européenne qui en gros fait un peu de chantage avec le gouvernement hongrois en disant si vous ne renoncez pas à cette loi qui est contraire à nos valeurs, on ne vous donnera pas d'argent dans le cadre du plan de relance. Est-ce que l'Union européenne là ne va pas au-delà de ses prérogatives, c'est-à-dire qu'elle s'immisce sur des questions de politique intérieure?
Non, Grégory, j'ai une réponse assez tranchée à cette question. On a par exemple la commissaire aux valeurs et à la transparence, Vera Jourova, qui l'a dit, hein, l'Europe est prête à invoquer le principe de la conditionnalité pour octroyer à la Hongrie cette aide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un mécanisme de conditionnalité du versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Donc c'est pas un chantage ad hoc, je dirais, c'est véritablement quelque chose qui est prévu, c'est-à-dire que vous devez avoir un État européen qui respecte l'État de droit et les droits fondamentaux pour qu'il ait accès droit à ces aides européennes. La vraie question, Grégory, c'est pas tellement sur cette conditionnalité qui est prévue, c'est plutôt de savoir est-ce que véritablement la loi de Viktor Orban, elle est contre l'État de droit. Et c'est là où le gouvernement hongrois et notamment son dirigeant Viktor Orban va plaider contre et va dire bah non, moi j'ai rien contre les communautés homosexuelles, moi-même je les ai défendues sous le communisme quand elles n'avaient pas les droits, etc. Donc vous voyez, c'est pas tellement cette conditionnalité, elle est prévue dans les textes européens, c'est plus sur l'appréciation de la loi Et c'est là où il va y avoir des complications. Et c'est là où le gouvernement va appeler au chantage, pas sur la conditionnalité elle-même, mais sur l'interprétation de la loi hongroise.
Très bien. Alors, sur ces difficultés à communiquer entre l'Union européenne d'une part et le gouvernement hongrois de l'autre, ça s'est vu très nettement il y a quelques jours de ça, pendant les matchs préparatoires de l'Euro, enfin plutôt les matchs de qualification de l'Euro. On a eu tout ce débat sur est-ce qu'on met les couleurs du drapeau de la Gay Pride sur les stades en protestation à la loi qui vient d'être votée en Hongrie. Et en réponse à tout ça, et notamment aux critiques très virulentes d'Ursula von der Leyen à l'égard de Viktor Orban, ce dernier a fait publier dans 8 grands journaux européens, dont Le Figaro en France, une pleine page de publicité, en gros, où il a souhaité s'adresser directement à la population et faire valoir sa propre vision de l'Europe, avec effectivement des clivages assez nets avec la politique majoritaire actuelle. Comment on peut voir cette tentative, en tout cas cette volonté de communiquer directement avec les Européens, mais le peuple, quoi, en tout cas ceux qui lisent des journaux?
Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, Grégory, dans l'approche et en fait dans la stratégie qu'a Viktor Orban. D'abord, élément de contexte, le premier ministre hongrois, en fait, il a pris, il y a quelques jours de cela, la présidence du groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad. Le groupe de Visegrad, c'est une plateforme de coopération entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Si vous voulez, c'est à l'intérieur de l'Union européenne un sous-groupe de pays qui sont, on va dire, proches géographiquement, d'abord les uns des autres. Hein, c'est plutôt des pays de l'Est qui sont coincés d'une certaine façon entre l'Europe historique et le géant russe. Mais c'est aussi, en termes d'idées et de certaines positions, hein, notamment avec la Pologne, une proximité idéologique. Donc d'abord, en fait, quand Viktor Orban communique aux différents parties prenantes européennes, il le fait au nom de la Hongrie, mais il le fait aussi souvent au nom de ce groupe de Visegrad. Et d'ailleurs, il reçoit plutôt toujours les soutiens des pays affiliés à ce groupe. Juste élément de parenthèse, hein, vous avez d'autres groupes à l'intérieur de l'Europe. On a souvent parlé du groupe des pays dits frugaux, hein, c'est ceux qui était plutôt contre au début le plan de relance tel qu'il a été conçu par Ursula von der Leyen. C'était l'Autriche, les Pays-Bas, etc. Vous voyez, au sein de l'Europe, déjà, vous avez Viktor Orban qui se situe à une certaine partie de l'échiquier. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il faut prendre épiphénomène, ou en tout cas ce phénomène conjoncturel là, qui est arrivé au moment de l'euro, comme un élément qui s'intègre de manière plus importante dans la position qu'a Viktor Orban vis-à-vis de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que Viktor Orban, il y a encore quelques mois de cela, était affilié au Parti populaire européen. Hein. C'est-à-dire qu'il était affilié au plus grand parti, j'allais dire, de droite, en France qu'on appellerait droite républicaine, mais en tout cas de droite non d'extrême droite. Et un de ses positionnements, là, depuis ces derniers mois, dernières années, c'est véritablement de dire que l'Europe, telle qu'elle est actuellement, ne parle plus aux peuples européens, qui a finalement un dictat de la Commission européenne. Et donc, vous voyez, hein, il y a évidemment un côté provocateur, idéologique, de cette approche de la loi par Viktor Orban, mais ça sert aussi toute son entreprise de refonte idéologique de l'Europe et de l'Europe tel que lui la voit. Et donc, cet exercice-là de communication à travers les journaux européens, ça fait partie de ça. Ça fait partie aussi de la vision qu'a Viktor Orban de l'Europe et la vision telle qu'il veut la communiquer.
Alors, justement, c'est le dernier point que je voulais aborder sur ce sujet. Vous disiez qu'il avait le souhait de réformer l'Europe, en tout cas qu'il en avait une autre vision. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un eurosceptique.
Non, ça n'est pas un eurosceptique dans le sens où, encore une fois, il croit à la construction européenne. Il croit au bienfait d'appartenir à une structure. Mais ça s'explique aussi du fait qu'il a bien vu l'importance d'appartenir à une structure imposante parce qu'il est voisin, à la fois, encore une fois, de pays d'Europe historique, mais aussi du voisin russe. Mais par contre, Lui, ce qu'il ne veut pas absolument, c'est de voir une Commission européenne qui serait d'une certaine façon un État supranational. C'est véritablement le combat actuel idéologique de Viktor Orban. Ce n'est pas de sortir de l'Union européenne telle que peuvent le pousser certains dirigeants, notamment les dirigeants suédois ou le dirigeant encore hollandais Mark Rutte, qui lui a dit que si il n'était pas content, il n'avait qu'à sortir de l'Europe. Enfin, il évoquait même de manière beaucoup plus agressive un départ de la Hongrie de l'Union européenne. Non, Viktor Orban, lui, il n'est pas eurosceptique, il n'est pas non plus eurobéat, mais ce qu'il veut, c'est imposer sa vision conservatrice de l'Europe où chaque dirigeant européen, finalement, a encore son mot à dire d'un point de vue économique, social et sur les mœurs de société. Et cette loi sur l'homosexualité en est un exemple parmi d'autres. Et c'est là où le combat va être de longue haleine avec les autres dirigeants de l'Union européenne, c'est que ça va être très difficile pour l'Europe de ménager le chèvre et le chou à la fois. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de pousser Viktor Orban en dehors de l'Union européenne, ce n'est pas de créer un Brexit hongrois, mais en même temps, c'est d'être cohérent sur l'octroi notamment des aides et sur l'aide que l'Union européenne va apporter aux pays de l'Est, au groupe de Visegrad et à la Hongrie, et de conditionner ces aides à une certaine vision qu'a développée l'Europe. Ce qui est aussi difficile, Grégory, et c'est là où je voulais en venir, c'est que à la fois il y a une plus grande ouverture d'esprit des pays européens et des avancées sociétales ces dernières années, notamment on peut évoquer la loi sur le mariage pour tous. Après, la question, c'est à partir d'où vous mettez le curseur entre finalement les expériences personnelles des dirigeants européens. Je pense notamment à Xavier Bettel, qui n'a pas hésité à s'engager personnellement face à Viktor Orban et expliquer les choses sur un registre très personnel par rapport à son homosexualité à lui. Vous voyez, on ne peut pas faire non plus, l'Union européenne n'est pas un assemblage des expériences personnelles, aussi modernes soient-ils, des dirigeants européens. Non, ça doit être fondé sur des textes. Donc c'est là où va se poser la question. C'est OK, on a des textes, on a ce texte sur la conditionnalité, mais est-ce que là, on n'est pas en train de surinterpréter ce texte? Et si on ne le surinterprète pas, mais qu'on veut le renforcer, il va falloir, encore une fois, avec les procédures d'unanimité, trouver des moyens de faire rentrer tout les agneaux dans la bergerie, y compris Viktor Orban.
D'accord. On revient donc effectivement à une lutte qui existe depuis quasiment aussi longtemps que l'Union européenne elle-même, à savoir ceux qui privilégient l'Europe des nations face à ceux qui privilégient une Europe fédérale, entité supérieure aux États qui en sont membres, tel que c'est le cas d'ailleurs et tel que c'est prévu. Mais cette notion est régulièrement contestée.
Un dernier point, Grégory, on voit aussi en Europe, ça fait quand même de quelques années maintenant qu'on ne parle plus ou beaucoup moins d'élargissement, parce qu'on a encore beaucoup à faire sur le volet approfondissement. Et c'est un des grands enjeux de l'Europe, c'est qu'il y a eu un élargissement exponentiel depuis les années 2000, et que là on voit bien que on a élargi l'Europe. En gros, on est passé très rapidement de l'Europe des 15 à cette Europe des 28-1, cette Europe des 27, mais que maintenant on doit, aligner tous ces pays-là pour que ça reste encore un bloc cohérent et qu'on soit pas tiraillé éternellement entre ces deux visions fédérales et supranationales.
Très bien. Merci beaucoup, Nathanaël, pour ces éléments d'analyse. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Europa Voice.
Merci beaucoup, Grégory.